Il est 7h.
On continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, mais qui correspondent à la vie de l'épidémie.
Et ces décisions, quelles seront-elles ? Plusieurs scénarios sur la table. Confinement total ou confinement seulement le week-end en Île-de-France et dans les Hauts-de-France ? Réponse ce soir à 18h. Un confinement qui doit être installé dans la durée pour qu'il produise ses effets. Explication dans un tout petit instant. Dans ce journal aussi, plus fort que le cinéma et la musique réunis, le jeu vidéo français a célébré ses créateurs hier soir, plongé à suivre dans les coulisses de cette industrie. Elle se pose en rassembleuse de la gauche, le nouveau pas d'Anne Hidalgo vers la présidentielle, c'était hier à Douai. Et puis, une idée qui fait à nouveau son chemin, celle de réutiliser nos emballages en verre, la consigne relancée. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et l'économie américaine qui repart très fort, le pays s'apprête à rouvrir les bars, les restaurants, les aéroports. Rude contraste avec l'Europe qui reconfine.
Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Être sportive et mère de famille, c'est possible. Le handball français s'est doté d'une convention collective avec un vrai congé maternité que les autres sports suivent maintenant.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nouveau tour de vis sanitaire en vue. Les annonces seront faites ce soir par le Premier ministre à 18h. Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs scénarios sont sur la table donc pour enrayer la progression de l'épidémie.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les principales restrictions devraient concerner deux régions, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, et peut-être une petite dizaine de départements limitrophes, avec une mise en application à partir de ce week-end. Une quasi-certitude, les écoles et les crèches ne devraient pas fermer. Ensuite, deux possibilités ont été présentées à Emmanuel Macron pour ces territoires. La première, poussée par Jean Castex et Olivier Véran, projection sanitaire à l'appui, un confinement 7 jours sur 7 pendant une durée de 3 à 5 semaines. Et la seconde, moins contraignante, un confinement le week-end avec un maintien du couvre-feu en semaine. Et ce qu'on sait, c'est que le chef de l'État n'a pas choisi, il hésite, car il veut être certain de ne pas se tromper. Du coup, il consulte à tout va. Le président a même demandé à ce que lui soit présenté aujourd'hui de nouvelles études de projection épidémique. En clair, à l'heure où je vous parle, rien n'a été acté. Enfin, un paramètre inquiète l'exécutif, le respect et l'application des restrictions, car les Français sont usés par les contraintes imposées depuis un an.
Des consultations qui vont se poursuivre donc tout au long de la journée pour l'exécutif. Hier, devant des élus locaux en visioconférence, le chef de l'État a tablé sur la fin du mois d'avril pour un tout début d'amélioration.
Et quelles que soient les mesures retenues ce soir, il faudra qu'elles s'installent dans le temps pour produire leurs effets. C'est l'enseignement tiré des précédents confinements par Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.
Quand on met en place un confinement, il va s'écouler à peu près 2 semaines avant que les courbes puissent commencer à freiner, puis ensuite encore 1 semaine pour observer une descente des taux d'infection ou des taux de réanimation avec le décalage dans le temps. C'est l'expérience qu'on a eue du premier confinement, mais c'est également la même expérience qu'on a eue avec le deuxième confinement, qui était beaucoup plus allégé, puisque les gens continuaient à travailler avec du télétravail, pouvaient avoir accès au transport, les écoles étaient ouvertes. Mais finalement, l'impact a été le même, c'est-à-dire une baisse d'environ 30% par semaine. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Dunkerque, à la troisième semaine, on s'aperçoit qu'on a commencé à réduire l'incidence, qui est passée de plus de 1000 à peu près 500-600, donc un effet net. Mais on n'a bien sûr pas encore d'effet sur les réanimations. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on mettait en place un confinement de week-end, ça aurait un impact d'ici à 2 semaines sur la circulation du virus, puis encore dans 2 semaines, probablement, sur les entrées dans les réanimations.
Le professeur Amouyel, joint pour Europe 1 par Anne Le Gall. Et au-delà des annonces de l'exécutif, on attend aussi aujourd'hui la décision de l'Agence européenne des médicaments sur l'innocuité du vaccin AstraZeneca, dont l'utilisation a été suspendue dans une quinzaine de pays, notamment en France et en Allemagne. Dès hier, l'Organisation mondiale de la santé recommandait de poursuivre les injections.
La crise sanitaire qui, entre mesures de soutien et perte de recettes, a déjà coûté l'an dernier plus de 160 milliards d'euros à l'État.
Et au rang des secteurs les plus impactés figure celui des transports. Hier, le patron de la SNCF a prévenu la compagnie Eurostar aura besoin d'une aide publique d'ici le mois prochain. 95% de passagers en moins depuis un an entre le continent et le Royaume-Uni.
Il y a un domaine qui, en revanche, a profité des derniers mois, des différents épisodes de confinement. En 2020, le jeu vidéo a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 10%. Et le secteur célébrait hier ses fleurons français, les Pégases, l'équivalent des Césars, et je reçois d'ailleurs un des grands gagnants à 7h40 tout à l'heure. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour à tous.
Avec vous, on a choisi de s'intéresser à cette industrie de s'y plonger. D'abord Clément, que pèse le marché du jeu vidéo aujourd'hui?
Bah, c'est le plus gros marché culturel au monde. Hein. 130 milliards d'euros l'an dernier, rendez-vous compte. C'est plus que le cinéma et la musique réunis. En France, entre les jeux vendus, les consoles et les abonnements, le secteur génère 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Nous sommes un pays historique du jeu vidéo avec un fleuron national, Ubisoft, numéro 3 mondial avec 40 studios et 19 000 employés dans 30 pays. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En France, il y a 650 studios de jeux vidéo et ce sont en grande majorité des petites entreprises, 27 employés en moyenne.
650 studios, donc un environnement très dynamique, des productions nombreuses. Pourtant, c'est long de créer un jeu vidéo.
Oui, ça peut prendre plusieurs années. Exemple avec Haven du studio montpelliérain The Game Bakers, une romance dans l'espace qui a remporté 2 Pégases hier soir. Aymeric Toa, le directeur créatif, est à la tête d'une équipe de 15 personnes.
Créer un jeu indépendant quand on est une petite équipe comme la nôtre, c'est long déjà. Ça nous a pris 4 ans pour faire Haven. Donc il y a un temps de conception où on pense le projet, où on fait des recherches graphiques et puis des prototypes dans la pré-production. Et ensuite, une bonne année et demie de production et de travail pour le sortir sur toutes les consoles possibles pour finir.
Et ça coûte cher de produire un jeu en France ?
Alors, ça dépend. 2 jeux vidéo sur 3 ont un budget de moins de 100 000 euros. Ça peut paraître finalement peu, mais c'est normal. C'est un chiffre qui est tiré vers le bas par les jeux pour smartphone qui ne coûtent pas cher à produire. Mais pour les jeux sur console, là ça grimpe. Haven, dont je vous parlais juste avant, a coûté 3 millions d'euros. Et ça reste un jeu dit indépendant, c'est-à-dire l'équivalent d'un film d'auteur pour le cinéma. Les grosses productions françaises, elles, peuvent atteindre 20-30 millions d'euros, des investissements rentabilisés en fait grâce aux ventes à l'étranger. Oscar Gilbert est le patron du studio parisien Dontnod qui a réalisé Tell Me Why, également récompensé hier au Pégase.
Au niveau de la répartition de nos joueurs, effectivement, la France représente un petit pourcentage de nos ventes, de l'ordre de 5%. C'est très important, en fait, quand on design des jeux vidéo, de se dire qu'on va pouvoir les partager avec le monde entier. Même si le scénario est écrit en français, en fait, la version de base du jeu est en anglais.
Voilà, l'anglais qui est vraiment devenu la langue universelle des jeux. Même dans les studios français, on parle parfois en anglais dans les équipes. Et tout ça fait que c'est plus difficile de trouver une French touch dans le jeu vidéo que dans le cinéma ou la musique. Ce qui n'empêche pas la France d'être toujours un pays moteur du secteur avec plus de 1000 jeux produits chez nous chaque année.
Clément Le Saffre, et je poserai ces questions à mon invité à 7h40. Quels sont justement les métiers du jeu vidéo? J'ai bien compris sur le CV, l'anglais est recommandé. Parlez anglais. 7h08 sur Europe 1. Après Nancy le mois dernier, une nouvelle étape pour Anne Hidalgo sur la route de la présidentielle.
Sans être déclarée encore officiellement, la maire de Paris continue de semer ses petits cailloux. Hier, elle était à Douai, dans le Nord, où elle a lancé sa plateforme Idées en commun. Hélène Terzian l'a suivie pour Europe 1.
Merci, je suis ravie d'être
Merci
là,
beaucoup.
vraiment. C'est...
Au cœur du bassin minier.
Ouais. Voilà.
Du bassin parisien au bassin minier, Anne Hidalgo vient s'inspirer d'initiatives locales. Ici, la rénovation thermique de logements.
Ici, dans cette cité, on travaille avec du béton de chambre, avec des techniques nouvelles.
La maire de Paris en profite aussi pour faire passer des messages, comme à cette travailleuse.
Et puis en plus, vous êtes une femme dans des
je
métiers.
Je suis la seule femme sur le
campus. Ça va, c'est pas trop dur. Vous avez votre tempérament aussi, forcément.
Je suis la seule, mais je m'appose.
Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire quand on est toute seule. On en sait quelque chose, nous, parfois, dans notre univers aussi.
Anne Hidalgo n'est pas une candidate déclarée, mais elle est observée.
Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous vois à la télé. Bon, je ne vous connais que comme ça, bien sûr. Après, je vous souhaite le meilleur.
C'est gentil.
Elle pioche sur le terrain, veut s'appuyer sur un réseau de maires, un ancrage local qu'Anne Hidalgo juge nécessaire. Un dernier sondage ne l'accrédite que de 8%. Quand on l'atteste au second tour, elle est même battue par Marine Le Pen.
Je ne commande pas les sondages. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour éviter de se retrouver dans un jeu dont l'issue pourrait être fatale pour notre démocratie, il vaut mieux ouvrir le jeu. Voilà.
Autrement dit, construire une autre offre politique. Elle se donne jusqu'à l'automne pour décider de sa candidature.
Un reportage d'Hélène Terzian pour Europe 1. En cette journée mondiale du recyclage, le retour localement de la consigne pour le verre, permettre de réutiliser les bouteilles et autres récipients, c'est l'ambition de cette entreprise Usage qui espère s'installer un peu partout en France d'ici l'an prochain. Reportage dans leur première usine qui a ouvert il y a 2 mois à Neuilly-sur-Marne, Virginie Salmen.
Dans un hangar, 2 grosses machines, des laveuses industrielles avalent sur un tapis roulant des bocaux en verre sales et ils ressortent limpides.
Ça lave une assiette en 2 minutes. Donc oui, c'est très efficace en termes de temps, de consommation d'eau, d'électricité que ce que vous avez chez vous. C'est à peu près 5 à 7 fois plus efficace.
Emmanuel Auberger, fondateur de l'entreprise Usage, qui lave toutes sortes de bocaux ou de bouteilles en verre provenant de fast-food, de restaurants de sushi, de saladeries, de cantines d'école, mais aussi de 2 magasins test à Rennes, ainsi Système U et un Biocoop qui pratiquent la consigne sur des bouteilles de jus de pomme, de bière ou encore des pots de crème fraîche en verre.
Les clients, tout le monde a envie de trouver des solutions pour se sortir du monde du tout jetable, du tout plastique, ramener son bocal après l'avoir mangé au restaurant. Ça tombe sous le sens. Le circuit logistique, on y arrive. Il y a encore du travail pour arriver à bien l'optimiser. Et après, maintenant, il faut essayer d'entraîner un maximum de monde parce qu'il faut que les consommateurs trouvent plein d'offres en fait, dans le magasin pour vraiment s'y mettre.
Après deux premières usines de lavage autour de Paris et de Rennes, les patrons de l'entreprise Usage vont ouvrir des laveuses près de six autres grandes villes, Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou Lille, d'ici l'an prochain et promettent 400 emplois à la clé.
C'est un nom que vous ne connaissez pas forcément. Cette voix, en revanche, vous dira forcément quelque chose.
Oui, ce type. Hirluc, la carte retournée du croupier. Il fait des signes à son petit copain à l'autre table. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent, ces entubeurs. Ils écument les casinos en flairant les croupiers faiblards comme les loups flairent la bière.
La voix de Robert De Niro, la voix française, le comédien Jacques Frantz s'est éteint hier à l'âge de 73 ans d'une maladie fulgurante.
Merci Marion Calais. Il y a des voix comme ça qui vous marquent. Alors on connaît moins le nom français de la voix de Robert De Niro, mais la voix on l'avait tous en tête. Merci beaucoup Marion Calais. 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Marion, vous jouez aux jeux vidéo, vous ?
Ah, de temps en temps. J'ai un jeu fétiche, Tomb Raider, que depuis mon adolescence. Et...
Vous savez qu'un gamer sur deux est une gameuse. Hein. On l'a beaucoup répété ces derniers temps. On vient de vous parler des Pégases. Ce sont les Césars du jeu vidéo, les victoires du jeu vidéo. Trois prix pour Microsoft Flight Simulator, dont le meilleur jeu vidéo de l'année, le Graal. Un simulateur de vol à une époque où les voyages sont limités. Le créateur, l'éditeur du jeu, c'est le studio Asobo, entreprise bordelaise, dont je reçois le cofondateur à 7h40. Le tête-à-tête Europe Matin va parler de ce secteur qui s'est imposé comme moteur de l'industrie de la culture. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, Poutine est un tueur, il n'a pas d'âme, il va le payer cher. C'est Joe Biden qui le dit. Un président américain ne devrait pas dire cela.
Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Un an après le choc du Covid, l'économie américaine repart sur les chapeaux de roue. Un rebond plus fort et plus rapide que chez nous.
Oui, la Banque Centrale Américaine a livré hier soir ses prévisions pour la première économie mondiale cette année. Des prévisions qui font envie. Une croissance à la chinoise, je dirais, de 6,5%. Alors qu'il y a quelques mois, la Réserve fédérale prévoyait un rebond nettement inférieur. Et puis, un taux de chômage qui sera quand même ramené à 4,5% d'ici la fin de l'année. Bref, les États-Unis auront effacer l'effet de la crise Covid grâce, il est vrai, à des plans de relance massifs, beaucoup plus massifs que chez nous.
Et ça va creuser les écarts de croissance entre les deux rives de l'Atlantique ?
Ben oui, regardez, selon les prévisions de l'OCDE, la zone euro devrait connaître une croissance de 3,9% cette année. On est donc très loin des États-Unis. Je le précise tout de suite, le retard de vaccination n'explique pas cette différence de rythme de croissance. Nous avons un décalage d'à peu près un mois sur les vaccins avec les États-Unis. Ils auront atteint l'immunité collective début juillet. En Europe, ce sera fin juillet. La différence de croissance, elle tient plutôt tout simplement à l'ampleur des plans de soutien à l'économie. Le pays du libéralisme a frappé très vite, très fort en termes de dépenses publiques. Alors en Europe, on a tendance à minimiser tout ça et à dire que les Américains incluent des dépenses sociales qui existent chez nous dans leur plan. Mais en fait, il est vrai qu'ils ont mobilisé plus d'argent public dans cette crise et qu'ils vont s'en sortir plus vite.
Alors est-ce que ça plaide pour renforcer les mesures de soutien en Europe ?
Ça plaide d'abord pour que ces mesures interviennent vite, ce qui n'est pas c'est le cas. Les fonds européens qui ont été adoptés pour la relance, 750 milliards d'euros, doivent être débloqués et dépensés. Or, ça prend plus de temps qu'aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il faut faire plus ? Le débat est lancé. La Banque Centrale Européenne elle-même, que nous avons interrogée au plus haut niveau, n'exclut pas qu'il faille faire plus, effectivement, alors qu'ils sont en général plutôt conservateurs quand il s'agit de dépenses publiques. En tout cas, dans les semaines qui viennent, le contraste entre les deux côtés de l'Atlantique va être de plus en plus saisissant entre une Amérique qui repart avec des bars et des restaurants qui rouvrent, des aéroports qui se remplissent, des consommateurs qui sortent et qui dépensent, et puis une Europe où l'ambiance est encore au reconfinement total comme en Italie, ou partiel comme en Allemagne et chez nous.
Merci Nicolas Barré. Pour chez nous, on attendra 18h évidemment, et puis pour les dépenses, avant de demander plus d'argent, il faudra qu'on arrive à dépenser celui qu'on devait déjà utiliser, vous avez raison. Merci Nicolas Barré. 7h16, à présent le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Joe Biden, on était aux États-Unis. Tiens, Joe Biden traite Vladimir Poutine de tueur. et Moscou rappelle son ambassadeur.
Oui, Joe Biden ne tweete pas, contrairement à Donald Trump. Il fait pire, il parle vrai, il parle sans masque. Le monde entier sait qu'enlever son masque, c'est courir des risques. Eh bien, Joe Biden l'a oublié. Et c'est un con parce que lui est très prudent, très précautionneux. Qu'est-ce qui lui prend d'affirmer à la télévision que Vladimir Poutine n'a pas d'âme, qu'il est un tueur ? Et à quoi pense-t-il en menaçant de lui faire payer cher ses ingérences dans la campagne électorale ? La seule réponse convaincante, c'est qu'il n'a rien calculé. Les diplomates ont inventé la langue de bois pour se cacher. Ils peuvent tout trahir sauf leurs sentiments. Joe Biden le sait bien, c'est son métier, la politique étrangère. Mais il se laisse aller en interview. On sent sa colère, qu'il veut se venger. Et le rapport du directeur du renseignement national lui en a donné l'occasion hier.
Un rapport publié mardi qui affirme que les Russes ont essayé de peser sur la campagne présidentielle et que Vladimir Poutine, au minimum, a donné son feu vert.
Oui, c'est le retour de la main de Moscou. On se souvient de l'enquête fleuve du procureur Mueller qui n'a pas réussi à démontrer que Donald Trump avait fricoté en 2016 avec les Russes. Cette fois, des Ukrainiens proches du Kremlin auraient tenté de salir Joe Biden. C'est l'histoire de son fils au conseil d'administration d'un oligarque et qu'un procureur de Kiev accusé de corruption avant que le vice-président des États-Unis fasse limoger le magistrat. Donald Trump avait tenté de pousser l'affaire, mais elle a fait pchit.
Car visiblement, Joe Biden, devenu président, n'a rien pardonné.
Depuis son élection, il tient une ligne dure face au Kremlin, le contraire de la bienveillance, pour ne pas dire la faiblesse de Donald Trump. L'empoisonnement de Navalny a entraîné des sanctions, l'interdiction d'exporter des produits sensibles. Les services russes sont soupçonnés d'une cyberattaque géante, d'avoir encouragé des talibans à tuer des Américains. La Chine est le véritable rival stratégique, mais la Maison-Blanche reste obnubilée par la Russie. Les Européens s'alignent. Angela Merkel tente de se faire pardonner le gazoduc Nord Stream en achetant des Boeing au lieu de fabriquer l'avion patrouilleur avec la France. Et Boris Johnson, qui veut rester le meilleur ami de l'Amérique, se réarme en dénonçant la menace russe.
Merci beaucoup Vincent Hervouette, le regard international tous les matins, c'est sur Europe 1. 7h18, tout de suite l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi quand une personne a été trompée par sa fiancée, on dit avoir des cornes ? Bah, c'est l'expression du jour.
A tout de suite, il est 7h19.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le handball féminin s'est doté d'une convention collective cette semaine, avec notamment un vrai congé maternité. Une petite révolution pour le sport collectif. Pour vous, Virginie, être sportive et pouvoir être mère, ça doit devenir une évidence.
C'est quand même presque fou que ça ne le soit pas déjà, hein, que les sportives puissent bénéficier d'un vrai congé maternité. Comme dans toutes les entreprises, dans le reste de la société, finalement, ça semble logique. Pourtant, aujourd'hui encore, les sportifs professionnels renoncent souvent à être mères ou reportent leur projet de maternité à leur après-carrière parce que le dispositif légal est encore trop flou. On a eu la semaine dernière l'exemple frappant d'une volleyeuse italienne dont le contrat avait été interrompu quand elle a été enceinte. Et 2 ans plus tard, son ancien club estime avoir subi des préjudices à cause de sa grossesse et lui réclame des dommages et intérêts.
Ah oui,
ah oui, on croit rêver et pourtant, ça arrive donc encore, comme quand un club de handball avait fait passer des tests de grossesse à ses joueuses sans les prévenir en 2019. Alors la convention collective adoptée par le handball féminin français est une avancée conséquente et elle doit servir d'exemple dans les autres sports. Il faut un cadre légal clair pour que les sportives n'aient plus la peur au ventre à l'idée d'aller aborder le sujet de la grossesse avec leur employeur. Parce que jusqu'à présent, c'était encore un sujet tabou. Elles ont presque l'impression de trahir leurs engagements sportifs en voulant devenir mère pendant leur carrière. Le désir de maternité ne peut pas vraiment dépendre du bon vouloir d'un club.
La FIFA a aussi pris des engagements en faveur d'un congé maternité.
Je pense que les fédérations n'ont plus trop le choix aujourd'hui et c'est heureux de voir les mentalités enfin évoluer. La FIFA va imposer un congé maternité de 14 semaines dès cette année et après cette période, les clubs devront réintégrer les joueuses. Le handball, le foot, on attend maintenant que les autres sports collectifs suivent. Dans les sports individuels, c'est un peu différent. Les sportifs sont plus libres de leur choix à condition que leurs sponsors jouent le jeu. Ils ne sont pas toujours exemplaires avec les sportives enceintes. La sprinteuse américaine Allyson Felix avait dénoncé la baisse de ses primes imposées par Nike à la suite de sa grossesse. Alors comme elle avait fait du bruit, l'équipementier avait dû céder.
Maintenant,
voilà, elle a bien fait. Ce serait bien que les sportives n'aient plus besoin de ruer dans les brancards pour obtenir simplement ce qu'il aurait dû. Sportive et maman, c'est possible. Comme le dit la vice-championne olympique de marteau Mélina Robert-Michon, qui a 2 filles et une armoire remplie de trophées. La maternité aurait pu être ma faiblesse, elle est ma force.
Merci Virginie Fulpin, que les fédérations suivent l'exemple de la fédération de handball. Pour le coup, en l'occurrence, puisqu'on parlait d'eux au départ, avant de partir sur la FIFA. Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins sur Europe 1, 7h24. L'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans les films, les romans, les séries humoristiques, il y a un personnage pour qui on a toujours un peu de tendresse, un peu de compassion. C'est le cocu. L'expression du jour, avoir des cornes.
Avoir des cornes, c'est donc quand on est trompé par l'être aimé. Mais pourquoi avoir des cornes? Quel est le rapport entre la trahison et les cornes? Le diable, peut-être?
Peut-être, mais en fait non. Ce que nous savons, c'est que cocu vient de coucou, un oiseau particulièrement volage qui n'hésite pas à pondre des œufs dans le nid d'autres espèces. En occitan, on disait cogos, en latin, ça donnait cogulus. Et là, Mathieu, vous me dites, mais pourquoi les cornes?
Oui, Stéphane, mais pourquoi les cornes?
Au XIIIe siècle, pour dire imbécile, on utilise cornard, qui donnera l'insulte que vous devinez. Au XVe siècle, pour dire se ridiculiser, il y a le verbe escorner. La corne en elle-même désigne le sexe de l'homme. On disait alors, pour dire rendre cocu quelqu'un, planter des cornes. Chez les Grecs, pour parler d'un mari dont la femme était particulièrement réceptive aux élans extra-conjugaux, on utilisait le mot bouc. On y retrouve, vous l'avez bien deviné, les fameuses cornes. Voilà. Ayons une petite pensée pour les maris et les épouses trompées. D'ailleurs, le grand Edmond Rostand avait inventé le mot ridicoculisé, un mélange de cocu et de ridicule. Tentons de consoler toutes celles et ceux qui ont des cornes en disant que le ridicule ne tue pas.
On vous retrouve à 16h tout à l'heure pour Historiquement Vôtre.
Oui, avec Mathieu Noël, on réunit le compositeur Richard Wagner, l'aviateur homme d'affaires et homme à femme Howard Hughes et le comédien Michel Blanc. Leur point commun, ils sont complètement malades, ou ils pensent l'être. On réunit de sérieux hypochondriaques à 16h.
À tout à l'heure. 7h25, dans quelques toutes petites secondes, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Sophie Hachène. À tout de suite. Il est 7h28 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Il y a un casse-tête pour résumer le temps d'aujourd'hui. Alors je vais être certainement un peu trop général, mais tant pis, je suis désolé chers amis, mais je ne peux pas aller plus précisément. Alors en général, ça veut dire que sur quasiment toute la France, ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies ou de quelques averses, avec trois poches de temps un peu plus marquées. Haute-Normandie, Picardie, Nord, Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Morvan et région parisienne. Des averses plus fréquentes dans ces régions. Sur Paris, elles seront présentes surtout cet après-midi. En Lorraine-Alsace et en Franche-Comté, des giboulées le matin et le soir. Entre les deux, bah, ça rend pas mal à l'heure du repas. Alpes-Maritimes, Var et Verdun, des pluies par épisode, mais sans plus. Sur la Corse du Sud également. J'aurais voulu dire que les températures sont vraiment fraîches. Sous abri, en raison de la bise, elles sont beaucoup plus froides que ça. Hein. 4 à Saint-Etienne, 7 à Besançon, 8 à Briançon, Lyon et Limoges, pas à Briançon, à Bourges. 9 à Paris, Lille et Poitiers, 10 à Toulouse, 11 à Bordeaux et 13 à Nice.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
On est embêté là, samedi, je vais vous dire, c'est la grande journée. On double notre chiffre d'affaires.
Ah, grosse inquiétude des commerçants à propos d'un possible reconfinement le week-end en Ile-de-France, en plus du couvre-feu la semaine. Cela aurait un impact désastreux sur leurs finances. Le confinement qui a boosté les commandes et ventes en ligne. Une conséquence, nos poubelles se remplissent beaucoup plus vite. Et puis la gauche et la droite toujours divisées autour des 150 ans de la Commune de Paris.
Juste après ce journal, Latoucham, Bertrand Chameroy, plongé dans le monde du jeu vidéo français. Dans le tête-à-tête Europe Matin avec Martial Bossard, cofondateur d'Asobo Studio, créateur du jeu Microsoft Flight Simulator, sacré meilleur jeu de l'année hier soir. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Je vais vous raconter un affrontement politique entre Emmanuel Macron et la droite, un affrontement qui se prépare. Un premier round a été joué à l'Assemblée nationale, le Sénat s'échauffe. Lequel des deux piégera l'autre? Réponse tout à l'heure.
Et réponse tout à l'heure, juste après, il y aura Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et Jean Castex lèvera donc le suspense ce soir pour les 18 millions d'habitants des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Confinement allégé la semaine, uniquement le week-end ou bien les deux. Les petits commerçants ont hâte d'être fixés. Cela fait un an qu'ils vivent au rythme des ouvertures et fermetures de leur boutique, avec forcément pas mal de colère et de lassitude, comme l'a constaté Carole Ferry auprès de ses vendeurs parisiens.
Regardez, il y a tout ce portant-là, d'hiver, des manteaux, des parkas, des gilets en laine.
La collection d'hiver n'est même pas encore épuisée, que Patrick Guetta s'attend déjà à devoir refermer. Mais désormais, il ne remplit plus son magasin de vêtements en début de saison, il achète au compte-gouttes.
Le stock, eh ben, j'y vais tous les jours chez les fournisseurs et j'achète un comme ça, deux comme ça, trois comme ça, pas plus. Et j'y vais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Juste à côté, Anne Crozet repense au temps qu'elle a passé à faire un site internet pour son magasin de décoration. Elle espérait ainsi compenser les périodes de fermeture. Mais l'expérience lui a démontré le contraire.
Ça n'a rien à voir en termes de commerce. Moi, les clients, ils achètent de l'achat coup de cœur, ils passent devant la vitrine et ils rentrent. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'on retrouve sur un site internet.
Le pire, selon elle, serait une fermeture le samedi, alors que le couvre-feu a justement entraîné un report des achats le week-end. Même inquiétude pour Ouria, qui tient le magasin de chaussures deux rues plus loin.
On est embêtés là, samedi. Je vous dis que c'est la grande journée. On double notre chiffre d'affaires.
Mais selon nos informations, le gouvernement travaille justement sur un nouveau dispositif d'aide pour les commerçants obligés de fermer le week-end.
Ces mécanismes d'aide, justement, sont toujours en place et cela a un prix. La crise sanitaire a déjà coûté plus de 160 milliards d'euros à la France.
Et pendant que la France attend le verdict sur le confinement, l'Europe attend celui sur le vaccin AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments rendra son avis tout à l'heure, ce qui devrait relancer ou non les campagnes de vaccination à l'arrêt dans plusieurs États membres.
En un an, les confinements et couvre-feux successifs ont bouleversé nos habitudes, nos modes de consommation, notamment en Île-de-France par exemple. Les ventes en ligne ont bondi de 30% l'année dernière.
Mais 30% aussi de déchets supplémentaires dans les poubelles jaunes, d'après le SICTOM, le syndicat des ordures ménagères. Se faire livrer, c'est bien, mais cela représente forcément plus d'emballages. Zoé Pallier a rencontré une famille chez qui les colis arrivent en continu depuis le début de la crise.
Et voilà !
Oh, j'ai trop faim en plus, oh là 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 là.
Quatre petites boîtes pour les hamburgers, des pochettes en carton pour les frites et des canettes servies dans un sac à part, une dizaine d'emballages d'un dîner pour deux, livré un peu froid chez Eva et Jade.
Bon les filles, vous avez encore commandé alors que j'avais fait à manger ce soir.
Florence, exaspérée de voir ses filles descendre au local poubelle chaque jour depuis le début de la crise.
Quand je vois des poubelles qui grossissent à vue d'œil, d'heure en heure, dans une journée, ça m'agace beaucoup et j'ai tendance à râler auprès de la famille. Ce sont tous les jours où il y a des colis qui arrivent.
Car ces filles ne commandent pas seulement à manger, elles se sont inscrites il y a un an sur des sites de vente en ligne.
Sur Amazon, je commande tout. Des choses que j'ai pas l'habitude de commander, du maquillage, des babioles, des choses pour refaire l'appartement, des gadgets. Quand je reçois un petit mascara qui est suremballé et encore emballé, c'est pas utile.
Et voilà.
À la poubelle.
Des cartons qui arrivent ensuite dans les centres de tri où de plus en plus d'emballages portent le logo des grandes marques de e-commerce. D'après Citeo, entreprise spécialiste du recyclage, ce type de déchets a augmenté de 10% en 2020.
Zoé Pallier, et à l'occasion de la journée mondiale du recyclage aujourd'hui, rendez-vous dans le journal de 8h tout à l'heure. Un dossier complet consacré au tri sélectif, son état des lieux et les innovations.
C'est une mesure qui risque de ne pas passer dans les rangs des syndicats de police. Avec l'accord du ministre de l'Intérieur, les sénateurs ont supprimé la possibilité pour les forces de l'ordre de diffuser les images filmées pendant les interventions par les caméras piétons des policiers.
On commémore à partir d'aujourd'hui les 150 ans de la Commune de Paris. Cette brève révolution populaire de 72 jours commencée le 18 mars 1871 qui s'est achevée dans un bain de sang.
Un événement qui divise la majorité de gauche à la mairie de Paris et l'opposition de droite. Rudolf Granier, conseiller LR de Paris, dénonce un opportunisme politique de la part de la maire de la capitale.
Aujourd'hui, la majorité d'Anne Hidalgo ne souhaite retirer que quelques éléments très positifs de la commune, alors que nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir un regard équilibré. La commune a été quand même un moment d'une violence rare. C'était un bain de sang, c'était la destruction de Paris. Donc, je souhaite que nous soyons vigilants et que nous ne jouions pas avec le révisionnisme heureux que nous proposent les communards de 2021.
Et de son côté, l'adjoint socialiste d'Anne Hidalgo, Patrick Bloch, le revendique. Cet événement fait partie de l'histoire de la gauche.
On commémore la commune de Paris parce qu'elle fait partie de l'histoire de Paris. On rend hommage évidemment aux femmes et aux hommes qui ont payé de leur vie, car la répression fut terrible. Le fait d'avoir porté des idéaux en 72 jours ont été portées des idées qui irriguent encore le débat politique et qui peuvent être justement pour des femmes ou des hommes de gauche toujours des objectifs à atteindre aujourd'hui.
On va prendre un peu de hauteur et on va en apprendre plus sur la naissance des galaxies. Pour la première fois, des images de la matière dont elles sont issues viennent de nous parvenir.
Des images aussi d'une multitude de galaxies naines qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. C'est le télescope Hubble qui nous avait fourni l'image la plus profonde du cosmos jamais obtenue. Hubble vient donc d'être détrôné par un puissant télescope basé au Chili, l'or d'Autriche.
Où et comment naissent les galaxies ? Dans des filaments de gaz. Et pour la première fois, les scientifiques ont capté des images de ces filaments composés d'hydrogène qui fabriquent les étoiles. Des myriades de mini-galaxies ont été repérées très loin de la nôtre grâce à un puissant instrument qui permet de voir l'univers en trois dimensions. Pouvoir observer ces filaments de gaz, c'est exceptionnel, explique Roland Bacon, astrophysicien et chercheur au CNRS à Lyon.
Le gaz qui rayonne très faiblement est très très difficile à détecter parce qu'il est ultra faible. Donc il a fallu développer toute une technologie. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, la formation d'étoiles va se passer à toutes les échelles, y compris à des échelles très petites.
Ce gaz, l'hydrogène, n'est pas réparti partout dans l'univers, mais uniquement là où l'on trouve ces grands filaments. Et en dehors des galaxies, il y a du vide. Ces images aujourd'hui permettent d'en savoir plus sur cette toile cosmique si mystérieuse.
Cette toile cosmique, voilà, ça représente.
Faire un peu rêver. On se projette cette toile cosmique. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 10h des annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran, la progression de l'épidémie, la saturation des hôpitaux, la campagne de vaccination et tandis que plane cette menace de reconfinement. Ça y est, je vous en ai donné beaucoup pour le petit déjeuner, là, des bonnes nouvelles. On n'a pas les informations encore. 18h ce soir, Jean Castex, Olivier Véran. Cela dit, à 8h15, ne manquez pas le généticien et président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk ce matin. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, un conseil, restez avec nous, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ça, c'est du teasing.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ça y est, on y est presque, c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui que quoi ?
Que Jean Castex parle, après des jours et des jours d'insupportable teasing, de supplices chinois, de déclarations qui veulent tout et rien dire, qui dévoilent sans trop en montrer. Dans un peu plus de 10 heures, nous allons enfin savoir concrètement ce qui nous attend, enfin je veux dire de manière officielle quoi.
Oui. Et sinon vous nous parlez de quoi ce matin ?
Ah oui, j'allais oublier. C'est vrai, nous sommes entrés dans une sorte d'instant où je dois faire ma chronique, puisque les chiffres ne mentent pas, ils sont formels. Il est 7h40, à 7h30, il était encore trop tôt, à 7h38, je me laissais encore un peu de temps, mais là, le cap de 7h40 a été franchi. Et chaque minute de perdu est une minute qu'on ne rattrape jamais, et en même temps, une minute de perdu, c'est du temps de gagner. Mais là, vraiment, le contexte m'y contraint, le moment est venu. Le moment est venu pour moi de mettre en application une nouvelle chronique. Alors, quelle forme va prendre cette chronique ? La question revient souvent et elle est légitime. Plusieurs scénarios sont sur la table. J'hésite entre une chronique globale qui parlerait vraiment à tout le monde, à tout le pays, ou une chronique plus spécifique avec des vannes qui ne concerneraient que certaines régions. Et enfin, autre option, une chronique adaptée et flexible, hybride, dont je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc ça peut vraiment aller d'une chronique émouvante à une chronique hilarante, voir si le contexte le justifie, une chronique très dure. Alors je sais votre impatience, votre ras-le-bol, votre incompréhension peut-être, chers auditeurs à cet instant. Croyez-le bien, ça n'a pas été facile, mais il a fallu trancher. Après concertation avec, excusez-moi, les forces vives de la station, direction, rédaction en chef, nous avons pris les décisions qu'on devait prendre et je vous dévoilerai donc demain, vendredi, à compter de 7h40, la teneur de cette chronique. Je vous remercie. Bonne journée. C'est énervant, hein, Jean Castex ? Bah ouais, c'est excessivement énervant. Je sais qu'il nous écoute. Je voulais qu'il ressente ce que ça fait, là, cette sensation vicieuse d'attendre sans savoir trop ce qui va se passer alors qu'on est déjà tous au bout du roule. C'était mon vie, ma vie de Jean Castex. Il va vraiment, vraiment falloir arrêter avec ce suspense et ce teasing sur les annonces. Je deviens fou,
ouais.
Ras-le-bol.
Ouais, vous avez des veines qui apparaissent sur
le
front.
Ah, mais je suis au bord du malaise,
on le sent, la touche âme, tous les matins, 7h40. À demain matin et à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
7h42, les Pégases 2021 étaient remis hier soir. Ce sont les Césars du jeu vidéo. Et ce matin, le jeu vidéo est à l'honneur sur Europe 1. Objet ludique, objet culturel bien sûr, objet économique aussi. Et les Français ont leur mot à dire, vous allez l'entendre. Grand gagnant de la cérémonie, il a reçu 3 Pégases hier, dont celui de meilleur jeu de l'année pour Microsoft Flight Simulator. Martial Brossard, cofondateur d'Asobo Studio, créateur, éditeur de jeux vidéo. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Félicitations Martial Brossard.
Merci et bonjour.
Et bonjour à vous, bienvenue sur Europe 1 ce matin en direct. 3 prix en poche, le jeu Microsoft Flight Simulator, simulateur de vol ultra réaliste. Dans un monde où on est limité dans nos déplacements, récompenser un simulateur de vol, c'est un symbole.
Alors je ne sais pas si c'est un symbole, mais en tout cas oui, pour nous ça nous fait plaisir parce qu'effectivement... Dans Flight Simulator, vous avez accès à la Terre entière avec toutes les conditions météorologiques, avec toutes les conditions de lumière, et ça permet vraiment de profiter de la beauté de notre planète. Et effectivement, en ce moment, c'est quelque chose qui est très difficile d'obtenir dans la vie réelle. Alors voilà, grâce au monde virtuel, vous pouvez en profiter de nouveau.
Asobo, votre studio, ça veut dire amusons-nous en japonais, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Ouais, on l'entendait dans le journal de 7h, le dossier de Clément Le Saffre à retrouver sur europe1.fr. Le jeu vidéo, c'est le plus gros marché culturel dans le monde. 130 milliards d'euros l'an dernier, plus que le cinéma et la musique réunis. Pourtant, on a toujours l'impression que c'est une niche, que l'on parle à quelques geeks. Est-ce qu'on en parle assez ? Est-ce qu'on défend assez cette industrie en France ?
Alors, est-ce qu'on la défend assez ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle se défend très bien toute seule. Quand vous parlez de niche, je crois qu'il y a plus de 3/4 des Français qui vont utiliser du jeu vidéo dans l'année. Peut-être même encore un petit peu plus, étant donné les circonstances actuelles. Donc, c'est
et le gamer, d'ailleurs, il faut le souligner, je le dis à chaque fois, le gamer n'est pas forcément un enfant. Hein, il a une quarantaine d'années de moyenne d'âge. Un gamer sur deux est une gameuse. Ça bouge.
Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Avec le temps, le jeu de vidéo est devenu un loisir d'enfant, un loisir grand public, avec une diversité d'expériences, avec des expériences qu'il ne faut de toute façon pas mettre entre la main d'enfant. Et vous retrouvez à peu près la même diversité culturelle que vous avez au cinéma, dans le monde de l'édition littéraire ou sur tout autre support culturel.
Vous êtes une entreprise, environ 250 salariés du côté de Bordeaux. Est-ce que la France est en pointe ou non ? Est-ce que la France compte au niveau mondial ? Parce qu'on connaît Ubisoft, le numéro 3 mondial, mais on sait que la plupart des acteurs sont beaucoup plus petits.
Alors la plupart des acteurs sont beaucoup plus petits, mais il suffit de reprendre un peu le palmarès des awards, des récompenses mondiales, et on trouve souvent des studios français. Donc cette année, on a la chance d'être à l'honneur. Il y a 2 ans, il y a une société bordelaise aussi, Motion Twin, qui a gagné énormément de prix avec un de ses jeux. Donc oui, elle compte du fait de son activité, elle compte aussi du fait de la qualité de sa production.
Et on entre dans le détail ce matin, une telle industrie, c'est une diversité de métiers aussi, et on ne les devine pas forcément toujours. Chez vous, on trouve des métiers techniques comme créatifs.
Exactement. Et en fonction des projets, la répartition est un peu différente. L'année dernière, nous avons sorti un jeu très narratif avec beaucoup de recherches graphiques qui avait besoin donc de la narration, d'écrivains, de graphismes, d'animateurs, mais aussi forcément une partie technique sur un produit comme Microsoft Flight Simulator. On est sur quelque chose qui est un peu plus ingénieré. Je vais inventer ce néologisme où on a besoin de beaucoup de recherche et de développement, donc peut-être un petit peu moins de ressources graphiques. La ressource graphique, c'est la Terre. Donc, vous voyez, elle nous sauve tous ses bienfaits.
Il faut combien de temps pour développer un jeu comme Flight Simulator ?
Alors, Flight Simulator, ça nous a pris un peu plus de 4 ans, avec beaucoup de recherche et de développement. Ça peut être, on peut être sur des rythmes un peu plus courts, mais généralement, oui, sur une production à gros budget, on va rarement être inférieur à une durée de 2 ans.
Et combien de cerveaux qui ont travaillé dessus ?
Beaucoup de cerveaux, de bons cerveaux. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 130 à travailler sur Microsoft Flight Simulator.
Ah oui, c'est la moitié de votre entreprise.
C'est la moitié d'entreprise, oui, ouais. Exactement.
Alors, ce jeu, il existe depuis 1982. Hein, c'est une collaboration avec Microsoft qui vient vous chercher, hein, vous, entreprise bordelaise, si j'ai bien compris. Ça se passe comment ?
Alors, avec Microsoft, c'est une relation qui a commencé il y a à peu près 12 ans maintenant. Donc, ils ne nous ont pas confié une de leurs meilleures licences du jour au lendemain. Donc, nous avons fait des collaborations successives. Et puis, il faut admettre que ça s'est plutôt bien passé. Et donc, il y a 4 ans, ils nous ont décidé de nous confier Microsoft Flight Simulator. Oui, pour Microsoft, c'est la plus vieille licence. C'est leur plus vieux produit. C'est plus vieux que Office, c'est plus vieux qu'Excel, c'est plus vieux que tout ce que vous utilisez, même que Windows. Donc, effectivement, c'est un honneur, une responsabilité de se voir confier un pareil produit.
Et pour le coup, c'est un succès monumental, mondial, hein, Microsoft Flight Simulator 2020. 1 million de joueurs en seulement 2 semaines, le 2e million en 4 mois. Alors je regardais là, tiens, puisqu'on est dans les chiffres, vous avez communiqué, vous, sur les 50 millions de vols effectués dans le simulateur, 3 milliards 500 millions de miles, 19 fois la distance Terre-Soleil. Est-ce que c'est vrai que des vrais pilotes jouent à Flight Simulator ?
Ah bien sûr, et des vrais pilotes nous ont aussi aidés à la conception. Alors, on s'y est tous mis, hein, l'aéronautique. Nous avons tous, quand c'était pas déjà le cas, passé notre brevet de pilote. Alors, quand je dis tous, en tout cas, les différents cadres qui encadraient la production de ce jeu. Mais c'est impossible de connaître toute la diversité de l'aéronautique. Alors on a fait appel à des pilotes pour qu'ils nous expliquent, pour qu'ils essayent, pour qu'ils nous fassent des retours. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, oui, bien sûr. Et on est très, très friands d'avoir le retour. Il y a des forums, il y a tout ça. On passe notre temps à les lire pour comprendre comment améliorer le produit au jour le jour.
Le Pégase du meilleur jeu, ça c'est le Graal, vous l'avez reçu, mais aussi le Pégase de l'excellence visuelle. Et puis le troisième prix, je voulais m'arrêter dessus, c'est le prix du meilleur jeu service. Là, il faut expliquer, parce que ça récompense le jeu qui est le mieux mis à jour en termes de contenu après sa sortie. Et là, il faut comprendre ce truc dans le monde du jeu vidéo. Il y a un vrai SAV, si j'ose dire, des mises à jour, des développements, des modifications techniques. Un jeu, en fait, c'est une matière qui reste vivante après sa sortie.
Alors, c'est pas le cas pour tous les jeux. Sur les jeux un peu narratifs, on va avoir une expérience qui va s'arrêter au bout de l'aventure. Pour un jeu comme Microsoft Flight Simulator, qui est donc une expérience de simulation, on va pas s'arrêter effectivement au jour de la sortie, on va essayer de prendre tous les retours, on va essayer d'ajouter du nouveau contenu, on va essayer d'ajouter de nouvelles expériences, on essaie de reproduire la Terre, on va trouver de nouvelles techniques qui va permettre que cette amélioration de la Terre ou ce rendu de la Terre soit encore meilleur. Donc on ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, l'équipe est même un petit peu plus grosse que ce qu'elle était le jour de la sortie, et on va continuer comme ça à apporter, à améliorer l'expérience pour que Flight Simulator continue de vivre et continue de satisfaire les nombreux utilisateurs qu'il y a aujourd'hui.
Alors cette année, vous avez reçu 3 prix pour un simulateur de vol, alors qu'on est limité dans nos voyages. Je le disais, l'an dernier, vous avez été salué pour un prix, un jeu médiéval qui se situe en pleine peste noire. C'était juste avant le confinement. Oui. Alors je passe sur ce hasard, cette synchronisation des événements, mais vous travaillez sur quoi maintenant ?
Écoutez, il va y avoir des annonces bientôt. Mais bon, voilà, il va y avoir des annonces bientôt. mais effectivement, on va réserver la primeur de ces annonces
à l'événement qui leur sont dédiés. Ah oui, mais mince, ça veut dire qu'on est dans le grand secret industriel de ce que vous préparez chez Asobo Studio. Mais rien à voir avec la pandémie, du coup. Je m'arrête là-dessus.
Non, rien à voir avec la pandémie. Et puis, de toute façon, comme vous avez dit, une grande partie du studio est pour l'instant entièrement dévouée à Microsoft Flight Simulator et à améliorer l'expérience.
On aura l'occasion de se reparler de tout ça. Martial Bossard, merci beaucoup, le cofondateur d'Asobo Studio, créateur du jeu vidéo Flight Simulator. 3 Pégases, les Pégases, ce sont les Césars du jeu vidéo. 3 Pégases hier soir, félicitations encore. Il est 7h51.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, l'édito politique de Nicolas Bétou avant de retrouver Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h53. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Votre édito tous les matins sur Europe 1. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron aux 150 citoyens de la Convention Climat. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine la révision constitutionnelle sur l'environnement.
Qui introduit dans l'article 1er de la Constitution l'obligation pour la France de garantir la préservation de l'environnement. C'est un premier pas vers un référendum sur le climat. Et c'est un symbole fort.
Qui a divisé la droite, elle a voté en ordre dispersé.
Oui, une partie des Républicains a voté contre et une autre partie s'est abstenue. Mais attention, ce qui pourrait passer pour un éclatement de l'opposition et une victoire politique d'Emmanuel Macron pourrait bien au contraire être un piège pour le chef de l'État. Je m'explique. Comme d'habitude, le texte voté par l'Assemblée doit maintenant l'être par le Sénat. Mais comme il s'agit d'une réforme de la Constitution, les deux chambres doivent voter le texte exactement dans les mêmes termes avant qu'il soit éventuellement soumis à référendum. Il suffirait donc que le Sénat change une virgule pour que le processus soit bloqué. Or, la droite est majoritaire au Sénat.
Et c'est donc ce qu'elle va faire ? Elle va amender le texte ?
Alors, c'est pas sûr, non, et c'est là qu'est le piège. Certains parlementaires de droite font le calcul suivant. Si on vote contre, on va être caricaturé en droite ringarde anti-écolo. On pourrait donc s'abstenir, laisser adopter le texte par la minorité en marge du Sénat et dire à Emmanuel Macron, chiche. Chiche, on vous donne rendez-vous à l'automne pour une épreuve de force autour d'un référendum. Un des leaders de la droite sénatoriale me disait hier, puisque le président veut donner la parole au peuple, ce n'est pas nous gaullistes qui l'en empêcherons. Mais il prendra son risque parce que nous ferons campagne pour le non au référendum. Objectif, faire battre le président à 6 mois de la présidentielle, ce serait un cataclysme garanti.
Et c'est ce qui peut se passer ?
Alors, si votre question porte sur la stratégie de la droite, elle hésite encore. Certains parlementaires disent que leur devoir démocratique, c'est de voter selon leurs convictions, pas selon une stratégie. Bon, donc de modifier le texte de l'Assemblée, ce serait la fin de la réforme. Mais si votre question porte sur le référendum, oui, un échec du président serait parfaitement envisageable.
Et il prendrait ce risque, le risque de ce cataclysme, comme vous disiez ?
Alors, ça peut lui ressembler, mais il reste une dernière hypothèse. Emmanuel Macron n'a rien fait pour chercher un accord, un consensus avec la droite, alors qu'il savait pertinemment dès le début qu'elle s'opposerait au texte. Il n'a rien fait pour empêcher le blocage. Avantage, c'est la droite qui plante la réforme, elle passe pour anticlimat, et lui passe pour le réformateur contrarié, tout en échappant à coup sûr à un référendum hautement périlleux.
Votre édito tous les matins d'Europe Matin avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et comme tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Axel Kahn, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer.
Excusez-moi, pardon.
Oui. Ah, bonjour Monsieur Strauss-Kahn.
Oui, alors vous recevez comme ça, bonjour Monsieur Milliard, Monsieur Bétou. Vous recevez tonton Axel, donc.
Tonton Axel. Comment ça, tonton Axel ?
Oui, écoutez, il déteste quand je dis que je révèle qu'on est la même famille. Je ne sais pas pourquoi. Donc je m'adresse à lui, tonton Axel, il faut vraiment, et c'est une urgence que tu encourages la vaccination, on a besoin que cette période se termine de façon urgente. Ça fait un an qu'on ne peut plus faire la moindre bise, les théâtres ne tiennent plus, les clubs échangistes non plus. Un an sans clients, vous imaginez. Non, ça personne n'en parle, ça va mal finir. Les gens vont craquer, vont se révolter, j'en suis certain, on est tous quelque part des... Pardonnez-moi, mais des Corinne Mazero en puissance.
Non.
Vous imaginez des millions de Corinne Mazero dans les rues.
Non.
Vous imaginez vos amis, vos mères, vos pères, vos grands-parents, Monsieur Bétou, Monsieur Carrérou, Monsieur Cabrol. Non, il y a des choses qu'on ne veut pas voir dans ce pays. Quoique Sophie Deschênes, Marion Calais, Sonia Mabrouk, Gilles Pulpin, Jules Leclerc. Jules Leclerc.
Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presse, qui est à 8h15. Axel Kahn, au micro de Sonia Mabrouk, bien sûr, il est 7h57. Europe 1. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et on va résumer en vous disant que c'est une journée d'alternance nuages éclaircies avec quelques ondées sur la plupart des régions, avec trois points un peu plus marqués, la Haute-Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la région parisienne et le Morvan, où les averses seront un peu plus fréquentes, notamment sur Paris dans l'après-midi. En Lorraine-Alsace et en Franche-Comté, nous avons des giboulées, et parfois de la neige, hein, 300 mètres. Et sur les Alpes-Maritimes, comme le Var et le Vaucluse, des petites pluies par épisode. Les températures maximales entre 7 et 12 degrés sont température sous abri, avec le vent c'est beaucoup plus frais puisque le vent vient du nord. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la suite, vous dire que la semaine prochaine ce sera une semaine froide, moyennement froide, mais bien dégagée, et nous arriverons le 28, heure de l'été. 28 mars, heure d'été.
Ah, le changement d'heure.
Ouais, changement d'heure. Voilà.
Bon, voilà, du beau temps et du froid jusque là. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe 1.